Nous allons nous incliner dans la prière et invoquer le nom du Seigneur et le secours de son esprit. Mon Dieu, nous venons te demander de faire silence dans nos cœurs, afin que tu puisses nous parler et que tu puisses éclairer nos âmes et que les vérités que tu veux nous enseigner puissent vraiment meubler nos pensées et les amener toutes ensemble captives à l'obéissance du Christ, comme nous l'enseigne ta parole. Nous te demandons que cette parole que tu nous as donnée et qui a été la lumière de tant d'hommes, de tant de femmes, au travers des âges, soit resplendissante pour nos âmes en cet après-midi et une fois encore nous te disons ouvre nos yeux afin que nous puissions voir les merveilles qui sont dans ta loi et que l'enseignement que tu nous donnes descende dans nos pieds et influence notre marche dans ce monde, dans nos mains, afin que nos actes puissent ressembler aux tiens, ô Jésus, et que nos paroles soient vraiment des paroles de grâce, qui communiquent la grâce. Nous te demandons tout cela, ô Père, dans le nom du Seigneur Jésus, qui a dit, le Père m'exauce toujours. Amen. Eh bien, mes amis, dans ce samedi après-midi, 4 juin 94, nous continuons donc notre thème, l'Esprit de Dieu à la lumière des Saintes Écritures, et nous en sommes, dans ce mois de juin, à ce premier volet qui est la présence et l'œuvre du Saint-Esprit dans la création. Les lectures qui ont été proposées étaient à nouveau le chapitre 1er et le chapitre 2e de la Genèse, auxquels nous avons ajouté ce chapitre que nous avons déjà lu hier soir, le chapitre 2 de la première épître aux Corinthiens. Et je dirais que lorsque l'on fait des ateliers et des partages, il y a toujours un danger de s'écarter du sujet et d'apporter nos idées, nos réflexions, alors que ce qui nous est demandé dans une retraite qui ne vous est pas imposée, elle vous est proposée maintenant. Si vous voulez y venir, vous y venez, mais on ne vient pas dans une retraite pour y enseigner nos idées personnelles. On se met en face de la parole, et puis, dans un partage, eh bien, on communique peut-être les réactions que nous avons en présence du texte, en présence de cette parole. On n'est pas là pour essayer d'orienter le groupe à nos idées. Parce qu'on peut avoir des idées différentes, ça c'est bien sûr. Nous n'avons pas tous atteint la même mesure de foi et de connaissance. Alors il faut que les modérateurs, justement, cherchent à modérer justement tout ce qui se dit. Et puis, si on n'est pas d'accord sur un point, eh bien, admettons-le, en nous souvenant de cette parole du Seigneur au chapitre 3 des Philippiens, il est possible que nous n'ayons pas la même pensée. Alors au verset 16 du chapitre 3 des Philippiens, il est dit ceci: je dirais depuis le verset 10, parce que ces rencontres, elles ont pour but de nous faire connaître Dieu, connaître son Fils dans la dépendance du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul, voyez-vous, qui avait des années de conversion, et quelle conversion, il nous dit au verset 10, du chapitre 3 des Philippiens, alors qu'il est en prison, que ce qu'il cherche, lui, c'est de le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Voilà sa grande préoccupation. On pourrait dire, mais Paul, est-ce que tu ne le connais pas? Non, il veut le connaître lui davantage. Il veut entrer davantage dans la communion de ses souffrances. Mais Paul, est-ce que tu ne souffres pas assez? Non, il veut vraiment avoir une communion aux souffrances du Christ. Mais justement, pour avoir communion aux souffrances du Christ, il faut connaître la puissance de sa résurrection. Parce qu'on ne peut pas souffrir pour le Christ d'une façon naturelle. C'est par la puissance de sa résurrection, quand on a réalisé, et la puissance de sa résurrection, qu'est-ce qui la donne? Le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas souffrir pour le Christ. Vous pouvez peut-être faire des grimaces, oui. Mais la vraie souffrance pour le Christ, qui n'est pas une grimace, mais une identification, eh bien, on la connaît par la puissance de sa résurrection, les souffrances du Christ. Étant rendu conforme à sa mort, si en quelque manière que ce soit, je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts. Vous voyez qu'il y a encore de la marge, souffrir jusqu'à être rendu conforme à lui, dans sa mort. Et il ajoute, verset 12, « Non que j'aie déjà reçu le prix, ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je poursuis, cherchant à le saisir, vu aussi que j'ai été saisi par le Christ. » Frère, pour moi, je ne pense pas moi-même l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort vers celles qui sont devant, je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Et il ajoute, et c'est ce verset que je voulais souligner, nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons ce sentiment. Et si en quelque chose vous avez un autre sentiment, cela aussi Dieu vous le révélera. Cependant, dans les choses auxquelles nous sommes parvenus, marchons dans le même sentier ou marchons d'un même pas. Il n'est pas dit, séparons-nous, excluons-nous. Non. Nous avons besoin les uns les autres de lumière, nous avons besoin d'être éclairés. Comprenons que nous ne sommes pas tous arrivés au même degré. Et si nous croyons être arrivés à un certain degré, nous avons encore à faire des progrès. Nous ne sommes pas des arrivés. Nous ne connaissons qu'en partie. Voilà la vraie sagesse. Nous ne connaissons qu'en partie. Alors n'ayons pas peur de la lumière que le Seigneur peut nous donner encore. Et ayons de la charité les uns pour les autres. Quand on pense à la patience que Dieu a eue pour chacun de nous et qu'il a encore, eh bien, ayons aussi de la patience pour les autres. Parce que je ne voudrais pas que dans vos ateliers, vous vous démolissiez ou que vous finissiez par être troublés ou écœuré, ce serait triste qu'on arrive à ce résultat alors qu'on voudrait dépendre vraiment du Saint-Esprit. Et voyez-vous, l'activité de l'Esprit dans la création, c'est là notre sujet, sa présence perpétuelle, c'est un sujet absolument fascinant et qui est cependant très peu connu, parce qu'on parle souvent, et on en parlera dans les retraites futures, du Saint-Esprit dans l'œuvre de la rédemption, du Saint-Esprit sur Marie, la mère bénie de notre Seigneur, comme nous le répétons si souvent, qui la couvre, mais aujourd'hui, nous sommes dans l'œuvre du Saint-Esprit, dans la création d'abord. Puis après, nous aurons une autre étape. Puis ensuite, l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église, dans les croyants. Mais je voudrais que l'on reste quand même dans notre thème. Et voyez-vous, dans la nature, l'origine et la conservation de toutes choses ont une source spirituelle. Est-ce que nous devons bien comprendre? Dans la nature même, c'est un des grands livres de la révélation de Dieu. Il y a la parole, mais il y a la nature, de telle sorte qu'il est dit que les œuvres de la création sont suffisantes pour rendre les hommes, même les païens, inexcusables de vivre d'une manière contraire à la loi naturelle. Chapitre 1er de l'Épître aux Romains. Les œuvres de la création sont suffisantes pour rendre l'homme inexcusable de transgresser les lois naturelles. Or, aujourd'hui, nous sommes en pleine apostasie. Et aujourd'hui, on ne voit que la transgression des lois naturelles. Et on voudrait faire passer ces transgressions comme l'état normal. Nous sommes pleins de compassion pour ceux qui souffrent de certaines maladies que nous ne voulons pas même nommer, parce qu'on ne fait que d'en parler. Mais ça me fait mal de penser qu'on fait maintenant toute une réclame pour la marche pour Jésus, alors qu'il y a quelque temps, c'était la marche de... La marche de qui? Ben, faut quand même l'employer, c'est dans la Bible. La marche de gens qui pensent qu'ils peuvent changer les relations naturelles contre celles qui sont, malgré tout, contre nature. Alors on veut maintenir des droits. Et on en arrive même à bénir, on voit bien que ce sont les hommes alors qui bénissent, c'est pas Dieu, hein, des mariages d'homosexuels. Vous direz que je suis retardé? Non. Nous avons de la compassion pour tous les pécheurs. Et on peut avoir été homosexuel, on peut l'être. Mais il y a changement, il y a pardon. Mais si vous voulez justifier cela, il y a 50 ans, devant un psychologue, j'étais avec mon ami René Page dans un temps, nous avons déjà dû nous lever et lutter contre cela, parce que c'était un psychologue chrétien, mais il disait qu'il fallait l'admettre simplement. Et puisqu'on est comme ça, bien, on le fait. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Alors déchirez votre Bible. Mais non, mais même on veut enseigner et on est à côté de la vérité. Alors non, nous ne pouvons pas admettre ces choses. Et voyez-vous, le jugement de Dieu vient sur un monde qui met le comble à ses iniquités. Alors tout à coup, bien voilà, marche pour Jésus. Un jour, ce sera la marche pour Jésus. Alors on se réunit, on se retrouve tous ensemble. Bon ben, moi j'ai rien contre ça. Mais au fond, on imite toujours ce qui se fait dans le monde. La marche pour Jésus, c'est quand? C'est tous les jours. C'est pas un jour par année. Oh, mais c'est mondial, c'est international. Puis qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Marche pour Jésus. Mais je veux marcher pour Jésus. Mais tous les jours. Et voyez-vous, la vraie marche chrétienne, c'est une marche individuelle, plus encore que collective. Oui, plus à Dieu qu'il y ait une marche collective, hein, et qui est un témoignage resplendissant. Mais je ne suis pas impressionné par des gens qui défilent dans les rues et qui se retrouvent simplement. Et puis quand on sait un peu ce qui se passe dans les cœurs, qu'il y a le divorce, qu'on admet, qu'on tolère. Bon, nous sommes pleins de compassion pour ceux qui ont dû passer par cette épreuve du divorce. Nous ne jugeons pas, mais nous disons qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est ce que l'Écriture nous dit. Alors je vous en supplie, prenons Dieu au sérieux. Maintenant, c'est festival sur festival. Je me souviens la première fois qu'il a été question de faire un festival pour Jésus, festival pour Jésus Québec, on m'avait demandé d'être l'orateur. J'ai demandé qu'on change ce nom-là, parce que le mot festival, dans le journal La Presse, il revenait au moins 36 fois. Festival de la crevette, festival de la petite fraise, festival de la framboise, festival de la patate, festival du homard, festival de je ne sais quoi, et puis festival Jésus au milieu. Alors, on est à l'heure du monde. Et vous savez, quand vous ne suivez pas le courant, ben, vous n'êtes pas très aimé. Mais je n'ai pas à chercher à me faire aimer. Ce que je voudrais, c'est que mon Seigneur soit aimé. C'est que Jésus soit honoré. C'est que Jésus soit glorifié. Or, aujourd'hui, bien, on ne parle que de partenaire, changer de partenaire, et puis tout ce que vous voudrez. Si je vis encore, c'est uniquement pour souligner que nous avons besoin tous de revenir à la parole de Dieu. Et alors là, nous voyons qu'il y a les bases qui nous unissent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Vous en avoir marre, hein ? Je vais vous demander, racontez-moi ce que vous avez fait dans vos acquis alors. Courage, je le suis, ne frémissez pas. Ce sont des ballons. Eh bien, je suis très reconnaissant de vous avoir entendu et de ce grand partage. Et je veux croire que le Seigneur continuera à vous bénir. Je voudrais simplement apporter, vous avez bien répondu, alors juste quelques mots sur cette deuxième rencontre sur le sujet, l'esprit à la présence et l'œuvre de l'esprit de Dieu dans la création. On l'a donc dans le livre de la Genèse au chapitre 1er et au chapitre deuxième, comme vous l'avez souligné. Vous avez aussi dans Job 33 un texte qui nous montre ce que l'Esprit de Dieu a fait, ce qu'on attribue à l'Esprit de Dieu. Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a fait, et le souffle du Tout-Puissant m'a donné la vie. Voilà un texte qui est très fort pour nous prouver que l'Esprit de Dieu était à l'œuvre, donc, dans la création. Maintenant, prenez encore le psaume 104. Qui exalte l'œuvre de la création. Le verset, disons, 30e. Tu envoies ton esprit, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Donc, le Saint-Esprit était à l'œuvre dans la création et aussi dans la conservation de la création. Et je dirais qu'il y a des psaumes entiers qui célèbrent la création. Par exemple, sur la création de toutes choses, le psaume 8, vous devriez le connaître par cœur, hein? Psaume 8, qui célèbre les œuvres de la création. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Tu as mis ta majesté au-dessus des cieux, par la bouche des petits-enfants et de ceux qui têtent ou qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta force à cause de tes adversaires afin de réduire au silence l'ennemi et le vengeur. Quand je regarde les cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as disposées, qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui, le fils de l'homme que tu lui dis. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains, tu as mis toutes choses sous ses pieds. C'était là la pensée de Dieu. Les brebis et les bœufs tous ensemble, et aussi les bêtes des champs. Ce n'étaient pas les bêtes qui devaient nous dominer, mais nous devions dominer la bête. L'oiseau des cieux, les poissons de la mer, ceux qui poussent dans les sentiers des mers, éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Prenez le psaume 19 aussi. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue donne à connaître l'ouvrage de ses mains. Un jour en proclame la parole à l'autre jour. Une nuit la fait connaître à l'autre nuit. Il n'y a point de langage, il n'y a point de parole. Toutefois, leur voix est entendue. Et puis, on pourrait multiplier encore d'autres passages. Donc, je pense que vous êtes bien convaincus que l'Esprit de Dieu a été à l'œuvre dans la création du monde. Maintenant, vous avez considéré plus spécialement le chapitre deuxième. Alors, évidemment, quand on lit tous les bouquins qui ont été écrits, on fait de commentaires. Eh bien, nous dirons que jusqu'au XVIIIe siècle, tout le monde, tous les théologiens, qu'ils soient catholiques ou protestants ou autres, eh bien, et même les juifs aussi, on attribuait à Moïse le Pentateuque. Puis, alors, il y avait un consensus là-dessus, c'était... C'est Moïse qui était l'auteur du Pentateuque. Puis après, alors on a commencé à douter et à dire non, c'est pas Moïse. Et on s'est mis à critiquer et à dire que c'était un écrit qui n'était pas si vieux que cela. Et on a sorti la théorie des sources. Il y aurait eu plusieurs sources. Et certaines personnes auraient écrit ces choses. Eh bien, non, nous laissons tout cela de côté, parce qu'alors on a appelé leur Bible la Bible arc-en-ciel, parce qu'ils soulignaient les textes qu'on attribuait à une certaine source, les autres qu'on attribuait à une autre source, et puis en finale, le Deutéronome n'aurait été écrit que 500 ans avant Jésus-Christ. Alors, on est complètement brouillé et vous y perdez votre foi. Alors, nous revenons à l'Écriture. L'autorité de Jésus nous suffit. Et quand on... Pourquoi est-ce que Dieu n'aurait pas révélé cela à Moïse? Qu'est-ce qu'il faisait pendant 40 jours sur la Sainte Montagne? Moïse, seul avec Dieu. Qui est-ce qui a inspiré Moïse? Quelle est la source vraie qui a donné à Moïse la connaissance de ce que nous avons sous les yeux? C'est Dieu. Et cela nous suffit. Il y a une source et Dieu a révélé ces choses à Moïse. Nous croyons à une révélation. C'est tout ce que je veux dire au sujet des sources, parce que ça ne vous édifie pas. Et maintenant, dans la question première, donc, on a dit qu'il y avait une source pour le chapitre premier et une autre source pour le chapitre deuxième. Or, comme vous l'avez vu, c'est un récit complémentaire. Dans le chapitre premier, il y a cet exposé magistral qui peut être compris par les gens les plus simples au travers de tous les âges. Et dans le chapitre 2, eh bien, vous avez, on revient sur ce qui a été seulement annoncé au chapitre 1er. Alors nous avons là des détails sur la création de l'homme et ensuite de la femme. L'Éternel Dieu forma l'homme poussière du sol, donc ce n'est pas contradictoire. Il souffla dans ses narines une respiration de vie et l'homme devint une âme vivante. Mais dans le chapitre 1er, la femme était déjà comprise dans l'homme, puisqu'il est dit il les créa homme et femme. Mais alors là, nous revenons. Et ce qui est tellement magnifique, dans le chapitre 2, mais on ne fait que passer, quand l'homme est visité par Dieu, au verset 16e, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui correspond. » Et c'est là qu'il y a l'institution du mariage, puisque Jésus lui-même reprend cela au chapitre 19 de Matthieu. « Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux des cieux, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait. » Vous voyez que l'homme devait avoir une drôle d'intelligence hein, pour pouvoir nommer tous les animaux. C'était pas le descendant d'un singe. Allons le dire ailleurs, ça. Et tout nom que l'homme donnait à un être vivant fut son nom. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, et aux oiseaux des cieux, et à toutes les bêtes des champs. Devant qui? Devant Dieu. Dieu était présent, Dieu était là. Mais pour Adam, il ne trouva pas d'aide qui lui corresponde. Il a bien vu s'accoupler tous les animaux, mais ce n'est pas ça qu'il lui fallait. Ce qu'il voulait, c'est un être face à lui. Un être qui lui correspond. Il n'en a pas trouvé. Et moi, j'aime beaucoup prendre ce récit aussi. Vous cherchez une femme? Vous pouvez trouver. Il y a tous les animaux possibles. Si vous voulez choisir vous-même, ça sera l'homme animal. Mais si vous laissez Dieu agir, eh bien, il ne vous trompera pas. L'Éternel Dieu fit tomber sur l'homme un profond sommeil. Tant que l'homme a cherché, est-ce qu'il a trouvé? Il n'a pas trouvé. Tant que vous cherchez vous-même, vous ne trouvez pas. Ou alors mal. Mais si vous vous attendez au Seigneur, vous verrez qu'il agira. Même pendant votre sommeil. C'est pour ça que je dis que l'inventeur de l'anesthésie, c'est qui? C'est Dieu. Il a endormi Adam pour faire son opération. Il fait tomber sur lui un profond sommeil, et il prit une de ses côtes, et la ferma la place avec de la chair. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et l'amena vers l'homme. Et alors, à ce moment-là, l'homme dit, « Cette fois, ceci est os de mes os, est chair de ma chair, celle-ci est appelée femme Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Alors vous voyez, il y a là, dans ce verset, la séparation du père et de la mère, hein, la séparation des parents dans le mariage. Il y a une séparation. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe plus des parents, hein, mais il y a une séparation. Parce que l'amour pour la femme passera avant l'amour pour les parents. Ça, c'est une chose. Puis il s'attachera à sa femme. Ça, c'est le véritable amour conjugal. Hein? Il quitte les parents, ça ne veut pas dire qu'il ne les aime pas, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas en prendre soin d'eux dans leur âge avancé, car celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Mais là, il y a vraiment les trois choses. Il y a une séparation de la famille. Mais maintenant, il y a un attachement à sa femme, et puis ils seront une seule chair, c'est quoi? Je me marie, mais je ne veux pas d'enfant. Qu'est-ce que vous avez dans une seule chair? Qu'est-ce qui est la chair? C'est l'enfant. Elle est trois choses. Séparation des parents, attachement à l'épouse, et puis finalement, dans l'enfant, il y a une seule chair. C'est tellement beau. C'est tellement beau, si vous y pensez. Une seule chair, c'est l'enfant. Mais quand on dit, est-ce que vous pouvez bénir mon mariage, mais je ne veux pas d'enfant. Vous croyez que je vais m'efforcer de demander une bénédiction? Si vous ne voulez pas d'enfant, ben ne vous mariez pas. Et quelle est cette raison? Ça ne tient pas. Dieu nous a enseigné par sa parole. Bon. Mais nous passons, il y aurait tant de choses à dire là-dessus, mais vous allez méditer vous-même là-dessus. Donc, il n'y a pas de contradiction entre le chapitre premier et le chapitre deuxième. C'est complémentaire, mais vous y trouvez là le vrai mariage. Au commencement, dit Jésus. Et il cite ces textes. Maintenant, à la deuxième question, j'ajouterai seulement ceci. Comment pouvons-nous savoir que Dieu, le Dieu présenté dans ces chapitres, est le vrai Dieu? Alors, je vous inviterai à lire dans le livre d'Ésaïe, où vous trouverez, à partir du chapitre 40, Verset 21, ne savez-vous pas, ne l'avez-vous pas entendu, cela ne vous a-t-il pas été déclaré dès le commencement, n'avez-vous pas compris la fondation de la terre? Lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre et ses habitants sont comme des sauterelles, etc. Et vous avez constamment, dans ces chapitres d'Ésaïe, une référence à ce commencement. Chapitre 41, verset 4. Qui a opéré et fait cela, appelant les générations dès le commencement? Moi, l'Éternel, le premier et avec les derniers, je suis le même. Maintenant, prenez 43, verset 13. Ainsi, depuis qu'il y a un jour, je suis le même. Il n'y a personne qui délivre de ma main. J'opérerai et qui peut m'en détourner? Donc, le Dieu de la Genèse, c'est bien le Dieu vivant, le Dieu d'Israël. 45, verset 21, je vous cite simplement ces passages pour que vous ayez une conviction. L'Éternel sera, en l'Éternel sera justifié et se glorifiera toute la semence d'Israël. Puis au verset 21, déclarez et faites-les approcher. Oui, qu'ensemble ils consultent. Qui a fait entendre cela d'ancienneté? Qui l'a déclaré dès longtemps? N'est-ce pas moi l'Éternel? Et hors de moi, il n'y a point de Dieu juste et sauveur, il n'y en a point si ce n'est moi. C'est donc bien le Dieu vivant. 46, verset 10, ou verset 9. Car moi je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre, je suis Dieu, il n'y en a point comme moi, déclarant dès le commencement ce qui sera à la fin, et d'ancienneté ce qui n'a pas été fait, disant, mon conseil s'accomplira, et je ferai tout mon bon plaisir, etc. Puis, 48 encore, verset 16. Approchez-vous de moi, écoutez ceci, je n'ai pas parlé en secret dès le commencement. Dès le temps où cela a existé, je suis là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé et son esprit. L'esprit est là. Il y aura encore un verset dans Jérémie que je vous citerai au sujet du commencement. Chapitre 17e, pour que vous soyez convaincus que c'est toute la Bible qu'il nous faut lire. Verset 12e, du chapitre 17 de Jérémie. Le lieu de notre sanctuaire est un trône de gloire, un lieu haut élevé dès le commencement. Au fond, le lieu de notre sanctuaire, ça doit être le trône de Dieu, ce trône de gloire. Alors, qui avait-il donc avant la création du monde? Donc, Dieu était là. Et que faisait Dieu avant la fondation du monde? Eh bien, vous l'avez dit, il préparait son plan. Alors, le plan de la rédemption était prévu dès avant la fondation du monde. Nous aurons l'occasion de voir cela. Dieu voulait créer un être libre, comme il avait créé les anges déjà, être libre. Il y en a un qui a employé sa liberté pour se révolter contre le dessein de Dieu. Et quel était le dessein de Dieu? Il a créé les anges. Mais si vous lisez la parole, les anges étaient destinés à quoi? À être les serviteurs employés à l'égard de ceux qui doivent hériter du salut. Alors, les anges avaient une fonction, mais à un moment donné, il semble bien que Dieu a révélé qu'au fond, ce n'était pas les anges qui auraient la première place, mais que Dieu allait créer un être, l'homme, au bonheur duquel il allait travailler, et qui serait semblable, prédestiné à être semblable à qui? À son fils. Donc, supérieur à qui? Supérieur aux anges. Et là, nous trouvons dans l'Écriture une opposition. Au fond, le germe du mal s'est trouvé dans le cœur d'un ange qui n'a pas pu accepter, au fond, semble-t-il, cette pensée de Dieu, ce dessein de Dieu. Et il s'est opposé au dessein de Dieu. Est-ce qu'on peut s'opposer? Non. Il a été déchu. C'est le 14 d'Ésaïe, Lucifer, l'astre brillant et qui tombe. Et alors, on va voir ce qu'il va faire. Comme il ne peut pas s'attaquer à Dieu, il va s'attaquer au dessein de Dieu. Et il va essayer de tout anéantir pour que Dieu ne puisse pas créer l'homme à son image. Mais que fera Dieu? Il arrivera à ses fins, il créera l'homme à son image, à sa ressemblance. Mais quand l'homme est là et que tout a été restauré, qu'il est en Éden, qu'est-ce qui se présente en Éden? Le serpent, qui essaye de détourner l'homme du dessein de Dieu. Et il y réussit en jetant le doute dans son cœur, en disant, bien, si vous mangez du fruit, vous serez comme Dieu. Mais c'était bien le plan de Dieu qu'il devienne comme lui. Hein. Mais Satan essaye de détourner l'homme du dessein de Dieu. Et Dieu, au cas où l'homme faisait le mauvais choix, qu'est-ce que Dieu avait prévu? Le plan de la rédemption. Alors, avant la fondation du monde, le plan de la rédemption était prévu. Et c'est ce que vous avez là au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, où il est dit, cette parole merveilleuse, verset 29, parlant de ceux que Dieu a préconnus, a connus à l'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son fils, pour qu'il soit premier-né en plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, donc étaient, nous avons eu une place dans la pensée de Dieu avant la création du monde, ceux qu'il a prédestinés, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il les a appelés. Mais qu'est-ce qu'on appelle? Quelqu'un qui s'est éloigné. Si l'homme était resté dans la dépendance de Dieu, Dieu n'aurait pas eu besoin de l'appeler. Et vous connaissez la grande parole, Adam, où es-tu? C'est l'appel. Il est caché maintenant, il a péché, il est caché. Adam, où es-tu? C'est l'appel de Dieu. Ceux que Dieu a prédestinés, il les a aussi appelés. Mais l'homme pécheur qui est appelé, qu'est-ce que Dieu doit en faire? Est-ce qu'il peut passer sur le péché? Non. Il doit subir le jugement. Alors, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. L'homme pécheur avait besoin d'être justifié. Et qui a fait l'œuvre de la justification? C'est l'agneau de Dieu préconnu dès avant la fondation du monde. Au cas où l'homme faisait le mauvais choix, Dieu ne serait pas pris au dépourvu, mais il accomplirait le plan de la rédemption. C'est pour ça qu'on peut dire que le repos de Dieu au septième jour a été troublé par la chute et Dieu s'est remis au travail. Et c'est si vrai que Jésus, quand il a eu guéri le paralytique à la piscine de Bethesda et qu'il est accusé par les Juifs d'avoir fait un miracle le jour du sabbat, il répond « Mon Père travaille et moi aussi je travaille. » Dieu s'est remis à l'œuvre pour accomplir le plan de la rédemption. Le repos de Dieu a été au fond perturbé, Dieu s'est remis au travail et il a accompli le plan de la rédemption. Alors, Jésus est venu dans son œuvre. Nous avons une pleine justification et il est dit, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est comme si c'était déjà fait. N'est-ce pas merveilleux? Vous étiez prédestinés à la gloire éternelle. Eh bien, malgré le mauvais choix, malgré notre péché, Dieu est juste. Personne n'a demandé de naître pécheur. Nous sommes nés pécheurs, nous le savons et nous le constatons, mais Dieu, dans sa justice, ne nous condamne pas parce que nous sommes nés pécheurs, il nous condamne parce que nous refusons le salut. C'est là la condamnation. Alors donc, Dieu a préparé le plan de la rédemption avant la fondation du monde. On va s'arrêter maintenant parce que c'est l'heure pour le repas du soir. Et maintenant...